Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette session d'information, les Congolais seront bientôt vaccinés contre la Covid-19. La République démocratique du Congo accueillera du 1er au 7 mars prochain ses premières doses de vaccins contre cette maladie. L'information a été donnée ce week-end à Kinshasa au cours de l'atelier organisé par le programme élargi de vaccination. Kisangani, libération de 27 otages en territoire d'Ango par les présumés rebelles de la LRA. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de cette entité, Antoine Ngombo-Lipay, dit avoir acheminé 6 d'entre eux à Ango Centre. Jacques Mokonkole nous fera le point dans ce journal. Le professeur Mounia Beni Nyembo Joseph, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu de Bukavu, est notre invité. Il nous parlera de l'expérience dans la gestion des finances publiques des animateurs des entités qui ont assisté la semaine dernière à un atelier d'échange d'expériences de gestion. Bonsoir et bienvenue à tous. La République démocratique du Congo accueillera du 1er au 7 mars ses premières doses de vaccins contre la Covid-19. L'information a été donnée ce week-end à Kinshasa au cours de l'atelier organisé par le programme élargi de vaccination sous les auspices du ministère de la Santé sur la mise en place des stratégies de communication pour l'introduction du vaccin contre la pandémie. À cette occasion, le directeur de programme élargi de vaccination a indiqué que la première campagne de vaccination visera le personnel soignant, les personnes âgées et celles présentant un haut risque, notamment une comorbidité Covid, hypertension, diabète. Madame Elisabeth Mukamba explique le but de la rencontre et les détails du processus qui conduira à la vaccination. Elle est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous nous sommes réunis pour échanger et trouver un consensus sur la manière dont l'un des axes pour la lutte contre la Covid va être intégré dans le système de santé. Et cet axe, c'est la vaccination contre la maladie à coronavirus. Donc, c'était essentiellement retenir déjà les sites de vaccination, comment on va les implanter en RDC, comment au niveau du site les tâches seront reparties, comment on va identifier les cibles prioritaires. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette vaccination d'abord. Ce n'est pas une vaccination qui est obligatoire. Mais il y a des personnes qui sont des personnes à risque de développer les formes sévères et même de mourir de la maladie. Et c'est prioritairement ces personnes-là que nous ciblons. Donc, le personnel de santé qui est en contact chaque jour avec les malades, les personnes âgées et les personnes qui vivent avec comorbidité. Voilà, il fallait maintenant qu'on définisse comment on va pouvoir vacciner ces personnes.
Lancement ce lundi 1er mars des activités du mois de la femme dans la salle Marie-Ange Loukiana par la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants. Sarah Sumbela était sur place.
Madame Béatrice Lomeya Atilité a annoncé le thème retenu pour cette année 2021. C'est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Pour elle, la RDC va commémorer cette journée et continuer à soutenir les activités de la femme pour son autonomisation.
Il y aura des activités, mais dans le respect des mesures barrières qui contribuent à arrêter la propagation de la pandémie. Par exemple, dans des salles où la distanciation est respectée, où les gens ont porté des masques, il y a des messages qui passent par rapport au leadership féminin, par rapport à comment nous devons continuer à nous sensibiliser mutuellement pour que nous puissions arrêter la pandémie. Donc, il y aura des activités, mais pas dans la formule usuelle, où il y a des grands entourements, où les femmes portent des uniformes, où après on voit des gens parfois qui débordent et qui vont dans les bars et font des choses qui nous discréditent.
Pour Madame Angèle Mamba, directeur à la réglementation et contentieux du commerce extérieur, l'autonomisation par moyens numériques avec cette pandémie, c'est encore plus compliqué, surtout pour les femmes qui vivent aux endroits reculés.
Moi, j'aimerais tout d'abord que ces messages, on puisse les répercuter sur toutes les chaînes nationales. Sur toutes les chaînes nationales, dans toutes les langues, les 4 langues officielles. Et comme ça, ça peut arriver à ces femmes-là. Et demander aux autorités administratives de tous ces coins de répercuter aussi les messages. parce que si ça se limite seulement à Kinshasa, on n'a rien fait.
Signalons que le thème international de cette année est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19.
Dans la province de la Tchopo, les présumés rebelles ougandais de la LRA ont libéré samedi dernier 27 personnes détenues dans un de leurs campements dans la localité Zapaï en territoire d'Ango dans la province de Bazouélé. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de cette entité, Antoine Ngombolipaï, dit avoir acheminé 6 d'entre eux à Ango Centre. Il plaide pour leur acheminement ou rapatriement dans leur milieu d'origine. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Parmi ces personnes libérées figurent 5 enfants de moins de 5 ans ainsi que 6 femmes, rapporte le député provincial Antoine Ngombolipaï, élu du territoire d'Ango. Les restes sont des hommes, dont des vieux déjà fatigués, précise ce rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bazouélé. La même source rapporte qu'il a déjà amené depuis dimanche 6 d'entre ses otages à Ango Centre en attendant qu'on trouve les moyens de les acheminer dans leur milieu d'origine. À ce sujet, il déclare que certains otages sont des Centrafricains, d'autres des Sud-Soudanais ou encore des Congolais originaires des territoires de Dungu et d'Ango. Ils ont passé entre 2 et 5 ans entre les mains de leurs bourreaux. C'est pourquoi ils plaident notamment pour leur prise en charge d'abord, en attendant qu'une organisation caritative facilite leur retour dans leur milieu respectif. Par ailleurs, évoquant les raisons de leur libération, Antoine Ngombolipaï, citant les otages, indique que leurs ravisseurs sont à court de nourriture. C'est donc à cause de la famine que l'un des chefs rebelles a ordonné leur élargissement, souligne-t-il. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Manono, 2 détenus sont décédés à la prison en l'espace de 3 jours la semaine dernière. D'après plusieurs sources, une 20aine d'autres seraient également dans un état déplorable. En cause, le manque de nourriture avec comme corollaire l'apparition de plusieurs maladies. L'autorité locale confirme les faits. Expédie Mwamba Mobi pour les détails.
D'après nos sources, le premier décès est intervenu le 22 février passé. Le détenu était poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'autre cas de décès a été enregistré le 25 février. Il s'agit d'un condamné pour vol simple. Le directeur de la prison, qui s'exprimait sur une chaîne locale, cite la malnutrition comme la cause de décès. Il lance par ailleurs un appel à l'aide pour cette prison qui manque de nourriture. Il n'y a pas que la malnutrition qui sévit à la prison, affirme pour sa part l'administrateur de territoire, Pierre Mukamba Kaseya, paraphrasé. La fièvre typhoïde, la malnutrition, en fait, plusieurs maladies. Ce sont les médecins qui vont confirmer de quel genre de maladie il s'agit. Quant à la question de manque de nourriture, l'AT de Manono dit se démener avec l'autorité provinciale pour trouver une solution palliative. Entre-temps, le directeur de prison prévient. Si rien n'est fait pour ravitailler cette maison carcérale, la 20aine d'autres pensionnaires risquent également de mourir. Kalemi, Expédie Mwamba Mobi, Radio Okapi.
Il totalise à ce jour plus de 10 ans de détention sans jugement au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Mineur à son arrestation, Kongwawi Bini Kombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté en 2010 lors du conflit opposant les Enyele au Monzaya dans l'ex-province de l'Équateur. Après plusieurs démarches sans succès entreprises auprès de toutes les autorités compétentes, son avocat qui livre cette information à Radio Okapi plaide pour sa libération pure et simple. On écoute Maître Guy Kabea, joint par Alain Irung.
Kongawi Bini Kombo Yangamo a été arrêté à l'âge de 12 ans, donc mineur en son temps, dans la cité de Dongo, dans la province du Sud-Ubangi, lors du conflit entre Enyele et Monzaya. Transféré à Gemena, il se retrouvera dans la prison de Makala, à Kinshasa, le 10 octobre 2010. Depuis lors, soit 10 ans et 4 mois plus tard, il y est toujours détenu, sans qu'aucun dossier judiciaire ne soit ouvert contre lui. Toutes les démarches entreprises, dont 2 lettres de demande de libération adressée au procureur général Lagombé, sont demeurées sans suite. La détention jusqu'à ces jours est d'autant plus arbitraire qu'il était mineur au moment de son arrestation. Nous exigeons donc sa libération, qui est une question de dignité humaine.
La campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat se clôture ce lundi 1er mars à minuit. En ce dernier jour, pendant que les partisans des uns et des autres se rivalisaient d'ardeur dans les champs et danses en faveur de leurs représentants, dans la salle des sénateurs, eux écoutaient les discours des différents candidats au poste des présidents, deuxième vice-président ainsi qu'au poste de rapporteur. Notons que hier dimanche, les candidats rapporteurs adjoints et ceux à la questure s'étaient également exprimés devant leurs électeurs qui sont les sénateurs. Les chefs d'État membres de la communauté de l'Est africain se sont réunis ce week-end pour débattre, entre autres, de l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de cette communauté East African Community. Celle-ci regroupe 6 pays, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. À l'issue de la réunion, les chefs d'État de la communauté de l'Est Afrique ont demandé au Conseil des ministres d'entreprendre rapidement une mission de vérification conformément à la procédure de la CAE d'admission des nouveaux membres à la CAE et de faire un rapport à la 22e réunion l'an prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire de la communauté de l'Est africain, Kelly Conté?
La communauté de l'Est africain, en anglais East African Community, EAC en sigle, fut créée en 1967. Mais durant de longues années, elle a fonctionné difficilement avant de prendre un nouvel élan en 1999. Son siège est à Arusha, en Tanzanie. L'anglais et le Kiswahili sont les deux langues de travail de la communauté, mais le 21e sommet du week-end dernier a recommandé une étude sur les modalités d'inclusion du français comme langue de la communauté en plus de l'anglais et du Kiswahili. La communauté de l'Est africain a pour but principal de piloter le programme d'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est de façon à créer de la richesse et à renforcer la compétitivité dans la région en stimulant la production, les échanges et l'investissement. Rappelons que c'est depuis l'an dernier que le président Félix Tshisekedi a exprimé dans une lettre adressée le 8 juin au président rwandais Paul Kagame, qui préside la communauté d'Afrique de l'Est, son souhait de voir le Congo intégrer le bloc régional. Le dernier pays à avoir rejoint l'EAC est le Soudan du Sud en 2016.
Au Nord Kivu, plusieurs hectares de champs de culture ont été détruits ce week-end dans le groupement Ikobo. C'est dans la partie nord-est du territoire de Walikale. Cela est consécutif à une série d'averses de grêle qui se sont abattues dans la zone. Selon les sources administratives et civiles locales, cette catastrophe rend encore plus vulnérables ces habitants qui viennent de se réinstaller dans la zone après plusieurs mois de déplacement. Bernard Denyangi.
Ces fortes pluies accompagnées de grêles qui se sont abattues vendredi et samedi ont inondé et détruit les champs dans au moins 4 villages du groupement Ikobo. C'est notamment Kateku, Misinga, Kasungano, Kisima et leurs environs, affirment les sources de la société civile locale. Selon ces sources, si ces pluies n'ont détruit aucune maison d'habitation, elle vient tout de même de voler à ses habitants retournés leur espoir de restaurer leur mécanisme de survie après nombreux mois passés en déplacement. Ces sources ajoutent que les cultures de maïs, haricots et manioc ont été semées avec un retard par rapport à la saison culturelle de décembre 2020 du fait que la zone était encore en insécurité. Rappelons que plus de 6000 habitants de cette zone avaient fui leur village en milieu de l'année passée suite aux affrontements qui avaient opposé les groupes de NDC Rénové de Guidon et ceux d'un certain Cabidon. Ils sont retournés dans leurs biens suite au redéploiement des FARDC dans la zone vers la fin de l'année dernière. Un notable du milieu plaide pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de ses habitants. Goma, Bernard Dengue, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des syndicats d'enseignants ont décidé d'entamer une grève de 24 heures ce 1er mars au Sénégal à la suite d'arrestations d'enseignants depuis quelques jours à Dakar et dans d'autres régions. Des arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition cité dans une affaire de viol qui défraie la chronique depuis près de 3 semaines. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Des délégués du Forum du dialogue politique libyen chargé par l'ONU d'élire un premier ministre auraient reçu des pots de vin pour élire Abdel Hamid Debaï, qui a effectivement été élu le 5 février, selon les fuites d'un rapport de l'ONU révélé par l'agence France Presse dimanche 28 février.
L'invité.
dans le cadre du programme de gouvernance intégrée de USAID, mis en œuvre par DAI. Trois entités territoriales décentralisées ont pris part la semaine dernière à Boutembo à un atelier d'échange d'expériences de gestion. Il s'agit de la commune de Kadutu de Bukavu, de la chefferie de Ngwéché du territoire de Walungu au sud Kivu et de la commune de Kimemi de Boutembo. Les animateurs de ces entités ont échangé sur leurs bonnes pratiques de gestion par la bonne gouvernance. Nous vous proposons comme invité le professeur Mouniabeni Niembo Joseph, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu de Bukavu. Ce dernier nous parle de leur expérience dans la gestion des finances publiques. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Professeur Mouniabeni Niembo Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des bonnes pratiques de gestion des finances publiques au niveau de votre entité, votre commune de Kadutu, qui pourrait également profiter à d'autres ETD qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cet atelier d'échange d'expérience?
Ce que on peut retenir est que la commune de Kadutu, en tant qu'ETD, a connu une évolution positive en termes de gestion budgétaire et administrative. Gestion budgétaire, dans la mesure où on a applique trois principes qui n'existaient pas avant, notamment la participation des citoyens à la gestion de la commune, la transparence dans la gestion budgétaire et la redevabilité. Avant, l'autorité communale constituait un problème, étant donné qu'il ne faisait pas participer la population au choix des priorités, au vote et à la mise en œuvre du budget participatif. Et c'est ce qui a attiré beaucoup plus de suspicions, beaucoup plus de critiques. Mais avec la capacitation de DAI USAID qui a renforcé la capacité en cette matière-là. 5 ans après, on a commencé à pratiquer, à mentaliser ces principes. Aujourd'hui, lorsqu'on élabore le budget, il y a une partie d'investissement qui concerne la population. Et le besoin doit venir de la base, à travers les différentes catégories sociales qui se trouvent dans notre commune. Ils expriment leurs besoins, eux-mêmes sélectionnent le besoin et ils les valident à travers une assemblée générale budgétaire. Après l'élaboration du budget, le budget est affiché. Le budget ne doit pas être un secret. Ce que le bourgmestre touche doit être connu. Ses avantages doivent être connus. C'est public. On ne doit pas les cacher. Et comment on affecte également les ressources, ça doit être connu. Nous, nous affichons. C'est la transparence. Et parce que quand vous cachez ce que vous faites avec les ressources publiques, ça va vous attirer des ennuis. Mais quand on voit ce que vous faites, vous êtes clair, vous ne cachez rien. Mais ces gens seront appelés à payer également.
Quels sont les principaux actes générateurs de revenus dans votre entité?
Il y a principalement l'étalage au sein de nos marchés communaux. La taxe journalière nous ramène environ 3 millions chaque semaine.
Donc, des francs congolais.
Des francs congolais. Et si vous le calculez, donc nous avons 12 millions à la fin du mois.
Quelle équivalence en dollars par exemple?
Vous divisez par deux. Donc c'est 6 000 dollars. Hein, le taux actuel. Il y a cela. Nous avons également l'état civil où il y a des mariages. Le mariage également, nous en avons beaucoup. C'est une culture à Bukavu. Et ça nous ramène également de l'argent. Il y a également en troisième position, la taxe professionnelle annuelle. C'est une taxe qui pose problème également ici à Boutembo, compte tenu du fait générateur. Et étant donné que sur l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 portant nomenclature des taxes et impôts de la compétence des ETD, lorsque vous exercez une activité commerciale dans une entité, vous devez contribuer au développement de l'entité. Donc, ça nous ramène également beaucoup d'argent. Évidemment, il y a des difficultés. Hein,
voilà, c'est par là que je voulais aboutir. Les défis auxquels vous faites face dans la gestion d'une manière quotidienne.
Le premier défi, c'est le défi général de la décentralisation. Les autorités au niveau national et provinciales n'ont toujours pas transféré les ressources, alors que il n'y a pas de décentralisation sans décentralisation financière.
Alors, les bonnes pratiques que vous avez trouvées dans la gestion de la commune de Kimemi sont lesquelles?
Des pratiques principales que je qualifie de très bonnes. D'abord, il y a premièrement la volonté politique du bourgmestre de la commune de Kadutu. Je lis
de Kimemi.
De Kimemi. Merci beaucoup. Et je lis en lui une très bonne attitude à pouvoir changer et travailler en faveur de la population. Deuxième bonne pratique, j'ai trouvé un arrêté portant création et fonctionnement du comité budgétaire élargi aux citoyens. C'est une très bonne chose. Ça n'existe pas. Chez nous, il y a confusion des rôles. On ne sait pas ce que doit faire l'autorité, ce que doit faire les marchés, c'est-à-dire le FEC, ce que doit faire la société civile. Mais ici, c'est précisé. Donc, c'est un modèle à copier. Et enfin, on a trouvé quand même qu'il y a une taxe à l'état civil qui est une source de revenir, mais que nous n'arrivons pas chez nous à pouvoir mettre à profit des ressources au niveau de la commune. On a trouvé ici lors de mariage l'attestation de célibat. Ça, c'est payé. C'est une bonne chose. Ça, je viens d'apprendre ici.
Professeur Mouniabé Nyembo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.